Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Décryptage, Marie-Ange de Montesquieu.
Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance. Et l'on n'est souvent qu'un bourgeois, c'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Observation d'un certain Jean de La Fontaine dans son temps, dans Le Rat et l'éléphant. Bref, la France qui, en 20 ans, a totalement changé de corps et de visage. Et si la fille aînée de l'Église n'était devenue qu'un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres. C'est que le socle de la France d'autrefois, sa matrice catholique républicaine, s'est visiblement complètement disloqué. Constat du sociologue et fin analyste politique Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage, donc L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Alors, première question, juste pour s'amuser, pour commencer l'émission, vous êtes d'accord avec La Fontaine ou pas? Vous qui avez analysé, scruté cette population française.
Il faut toujours écouter La Fontaine, je pense. Il avait vu les choses il y a très longtemps déjà.
Se croire un personnage.
Voilà.
C'est très français, ça? C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est encore vrai en 2019? Parce que même si ça a changé depuis...
Il suffit de regarder autour de soi, on en trouve quand même. Ouais.
Alors, pour commencer un peu plus sérieusement, on a pu constater, alors récemment avec le mouvement des Gilets jaunes, quelque chose qui nous échappait totalement, une espèce d'agrégation de personnes très différentes, au fond issues de groupes eux-mêmes sociaux très 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 différents les uns des autres, avec des demandes très différentes, encore une fois, les unes des autres. Donc, plein de contradictions. Est-ce que c'est un peu à l'image de ce que vous décrivez dans votre livre, une sorte d'archipel éclaté dans tous les domaines, au fond?
Alors, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, il est très révélateur sociologiquement parlant. Il a certes mis à jour ou permis une agrégation d'un certain nombre de groupes sociaux. On voit, par exemple, nous, dans nos enquêtes de l'IFOP, que le niveau de soutien a été à peu près aussi élevé chez les ouvriers, les employés, d'une part, que chez les artisans. Or, historiquement, dans le modèle français, il y avait un clivage très, très net entre les salariés d'un côté et artisans, petits chefs d'entreprise de l'autre. Là, cette frontière-là a été abolie. Mais en même temps, comme dirait l'autre, on est aussi, dans ce mouvement des Gilets jaunes, sur une illustration, parmi d'autres, de l'état de fragmentation de la société française. En ce sens que, il a mis en lumière un contraste très net entre ce qu'on pourrait appeler la France de l'étalement urbain, la France qui est dépendante de la voiture, et puis une France beaucoup plus métropolisée, beaucoup plus diplômée également, parce qu'on le voit aussi dans nos sondages, l'attitude des Français vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes est très directement corrélée à leur niveau de diplôme. Mmh. Alors bien évidemment, comme dans chaque enseignement sociologique, on va avoir des cas atypiques, mais grosso modo, la frange la plus éduquée de la population a regardé avec beaucoup de distance, voire après avec beaucoup de condescendance, ce mouvement.
Oui, une graduation, effectivement.
Voilà, quand les Français les moins diplômés, mais qui exercent justement ces métiers manuels, soit en tant que salariés, soit comme artisans, se reconnaissaient bien davantage. Donc ça, c'est une des premières lignes de fracture. On en a une seconde qui était une fracture territoriale également, puisque cette France qui s'est mobilisée dans le mouvement des Gilets jaunes, qui a pris naissance avec le refus de la hausse des taxes sur les carburants, c'est une France qui est très dépendante de la voiture. Hein, comme certains analystes l'ont observé, historiquement, le mouvement social en milieu urbain, il se renie dans des places. C'est d'ailleurs le nom du mouvement, du jeune mouvement du philosophe Raphaël Glucksmann, qui s'appelle Place publique. Quand les Gilets jaunes, eux, ont décidé de se regrouper, se sont regroupés dans leur environnement de proximité. Ils ont choisi quoi? Ils ont choisi le rond-point.
Le rond-point.
Donc c'est l'homme de la rue contre l'homme de la route. Hein, et donc c'est aussi une autre forme de clivage. Et puis on pourrait multiplier les exemples comme ceux-là. Quand la gauche radicale a essayé de travailler à la fameuse convergence des luttes, en essayant de, soit quand on était syndicaliste et à la CGT, d'appeler à la grève générale. Hein, il y a eu une grève générale qui a été décidée il y a quelques jours ou quelques semaines, qui a fait un flop retentissant. Et de la même manière, d'autres organisations de la gauche radicale avaient essayé de faire converger Gilets jaunes et associations qui seraient censées représenter les habitants des banlieues. Or, les banlieues se sont manifestées par leur grande absence durant ce mouvement des Gilets jaunes, tant au début, le 17 novembre, dans l'occupation des ronds-points ou d'un certain nombre
qu'à la fin des manifestations, effectivement.
Que dans les manifestations, elles n'ont pas été là. Donc, ça dit aussi un état de fragmentation, y compris dans les catégories populaires, où c'est plus forcément uniquement le haut et le bas, mais au sein du bas, on a aussi des groupes qui s'ignorent et qui vivent chacun dans leur silo.
Alors, évidemment, le gros morceau de votre bouquin, c'est quand même la catholicité. En plus, on est sur Radio Notre-Dame, donc je pense que ça intéresse en premier lieu nos auditeurs. Mais juste pour rester sur ce phénomène de clivage France d'en haut, France d'en bas, vous en parlez même au sein des partis. Comment ça se manifeste, Jérôme Fourquet ?
Alors, eh bien, on voit...
C'est intéressant, le phénomène Macron aussi, notamment.
Oui, alors, Emmanuel Macron et pas mal de ses lieutenants se sont plaints et lamentés qu'ils avaient raison sur ce point. Le mouvement des Gilets jaunes a, extériorisé toute une série de fractures ou de tensions qui s'étaient accumulées depuis une trentaine d'années. En ce point, ils ont raison. Mais ils se disaient, mais pourquoi c'est sur nous que la foudre est-elle tombée ? Eh bien, la foudre est tombée sur eux parce que sans doute, à leur corps plus ou moins défendant, une partie de ces nouveaux cadres, de ce nouveau monde, incarne une France d'en haut qui est déconnectée, qui est éloignée, qui a le retour, qui a le regard, tourné vers le grand large et qui, à coup de petites phrases ou de décisions symboliques, a mis toute une partie de la France sous tension. Et quelque part, cet avènement du macronisme s'apparente à la constitution de ce qu'on appelait un bloc libéral élitaire, c'est-à-dire avec une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite, qui étaient prisonniers du vieux clivage gauche-droite hérité de leurs ancêtres, de nos ancêtres, et qui aujourd'hui se sont libérés de ça et qui se sont rendus compte que finalement, ils avaient beaucoup de choses en commun. D'où le fait que aujourd'hui, dans la majorité présidentielle, on est par exemple un ralliement de deux membres fondateurs de l'UMP, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé. Qui ont rejoint des membres éminents du Parti Socialiste. Je pense par exemple à monsieur comme Le Drian. Et donc on voit bien qu'il y a une convergence là et qu'on est passé à autre chose parce que on va revenir peut-être à cette matrice catholique.
Absolument, qui est à l'origine de tout selon vous. C'est hallucinant cette histoire.
Alors, la matrice catholique, et d'autres l'ont dit, Emmanuel Todd aussi.
Et Hervé Lebras.
Et donc, pour compléter le modèle, il y a cette matrice catholique, ce bloc catholique. Et puis en face, il y avait un bloc républicain laïque. Et c'était la confrontation, le duopole entre les deux qui ont...
Qui a duré des siècles.
Depuis la Révolution, minimum, qui ont structuré... la sociologie française, la société française, mais aussi notre imaginaire et notre monde politique. Quand je commence ce livre en introduction, en revenant sur le Front populaire, qui est une grande date de l'affrontement 36. Gauche-droite en France, en 1936. Et donc, je cite les travaux d'un historien, M. Dupeux, qui essaie de comprendre comment se sont structurés les votes. Et il essaye de faire coïncider la carte du vote du Front populaire avec la carte département par département, de la proportion d'ouvriers, de la proportion d'agriculteurs, qui sont très nombreux à l'époque. Et à chaque fois, comme dans un Rubik's Cube, la correspondance est très imparfaite. Et au terme de sa quête, il découvre une carte qui colle très bien, correspond très bien à ce vote gauche-droite très polarisé. Et cette carte, quelle est-elle ? C'est la carte de la pratique religieuse catholique dans les années 30. Donc, au fondement de tout cela, il y avait cette matrice catholique qui structurait en positif ou en négatif le clivage gauche-droite. D'accord. Cette matrice catholique, aujourd'hui, elle a beaucoup perdu de vigueur. Elle s'est même disloquée. Les catholiques existent encore, bien évidemment, mais ce ne sont plus la force référente ou la force structurante de notre société. Et en cela, nous sommes en train de basculer dans autre chose.
Vous avez dit, même vous avez écrit, je ne sais pas si c'est un détail important ou pas que vous avez noté là, que c'était... en raison de la disparition de côté obligatoire, de la pratique catholique. Est-ce que c'est ça ou pas qui a complètement transformé le cours de l'histoire de la France ?
Là, je reprends les travaux d'un historien qui s'appelle M. Cuchet, qui a écrit un livre formidable.
On connaît bien ici, d'ailleurs.
Voilà, qui a écrit un livre formidable et qui est sorti récemment sur le phénomène de déchristianisation. Et il montre bien que ce phénomène a été, en gros, initié bien avant Vatican II, mais que Vatican II, en voulant prendre acte de cette évolution, a essayé de reprendre un petit peu la main, en essayant de s'adapter à l'ère du temps, à accélérer le phénomène, en ne rendant plus obligatoire l'assistance à la messe dominicale. M. Cuchet parle notamment de ce qu'il appelait un catholicisme populaire, qui était ancré dans des pratiques et des convictions, traditionnelles. Ouais. Et c'est tout cette armature-là qui a sauté et qui a accéléré le mouvement. Mais il le montre bien comme un inspecteur qui reviendrait sur la scène du crime, que les ferments étaient préalables à ça. On reviendra peut-être, mais dans le livre, je m'appuie pas mal aussi sur l'étude des prénoms.
Alors ça, c'est passionnant. Voilà. Les maris disparaissent. Voilà. Marie, donc, IE, bien sûr.
Voilà, Marie. Et donc, on voit qu'au début du 20e siècle, en 1900, une petite fille sur cinq qui naît en France s'appelle Marie. On est tombé aujourd'hui à moins de 1%. Et donc, le choix du prénom Marie était tout sauf anecdotique. Il était très chargé symboliquement. On voit d'ailleurs que la carte des petites Maries correspondait à la carte de la présence catholique, assez logiquement, hein, avec par exemple des régions comme la Bretagne ou départements comme le Finistère, où en 1900, une petite fille sur deux qui naît en Finistère s'appelle Marie. Et puis, dans certaines régions, comme ici, dans le bassin parisien, où la déchristianisation était précoce, on était déjà à moins de 10% de petites filles qui s'appelaient Marie. Je fais ce détour par ce prénom pour expliquer que le déclin du catholicisme en France, c'est un phénomène au long cours et qui a commencé très précocement. C'est-à-dire que dès les années 30, on n'est déjà plus qu'à une petite fille sur 10 qui s'appelle Marie, parmi toutes les naissances, si on prend cet indicateur. Donc ça a commencé bien avant Vatican II et bien avant les années 60 et 70. Mais comme l'avait écrit en début des années 80 Marcel Gauchet dans son livre « Le désenchantement du monde », le phénomène de sortie de la religion, il a été diagnostiqué précocement, mais on est en train d'assister, si vous voulez, un petit peu collectivement à l'étape terminale.
Catholicisme zombie, c'est ça ?
Alors, Todd et Lebras emploient ce terme un peu provocateur pour expliquer que la disparition du culte catholique en tant que pratique de masse laisse néanmoins porter une ombre sur un certain nombre d'autres pratiques sociologiques. Et donc, ils mettent, par exemple, en avant la réussite scolaire plus élevée que la moyenne dans les régions de tradition catholique, l'influence par exemple d'un syndicat comme la CFDT dans les anciennes terres catholiques, et d'autres pratiques comme l'entraide, le développement d'associations qui sont plus dynamiques dans ces régions-là. Tout ça continue d'exister, et il ne faut pas le nier, mais le catholicisme, en tout cas cette matrice catholique, n'est plus aujourd'hui une force structurante de la société française et même des vies, de la vie d'un certain nombre de nos concitoyens. Je prends quelques exemples. Pour ce qui est, par exemple, des obsèques, on est aujourd'hui dans les enquêtes sur une majorité de Français qui souhaitent se faire incinérer plutôt que se faire enterrer. Si on regarde ce qui est là, pour du coup, plutôt au début de la vie, sur les baptêmes, sur les derniers pointages dont on dispose, c'est 30% seulement des enfants qui sont baptisés sur les générations qui sont en train de naître. Mais tout ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que je parle d'un basculement anthropologique, parce qu'on se rend compte rétrospectivement de la force d'imprégnation de cette matrice chrétienne, judéo-chrétienne et catholique.
Qui existe encore donc,
qui existe d'une certaine façon. Mais qui est surtout présente, ou qui imprègne encore les générations les plus âgées qui sont nées au moment du baby-boom. Celles qui suivent sont dans un autre référentiel. On prend par exemple le cas du rapport à l'animal, la hiérarchie des espèces, qui il ne venait sur le sujet de laquelle il ne venait à personne il y a encore 20 ou 30 ans, 30 ou 40 ans,
de revenir.
Les animaux étaient une créature de Dieu, mais ils avaient été créés pour être au service de l'homme. Donc, bien évidemment, il ne s'agissait pas de faire acte et preuve de cruauté vis-à-vis des animaux, mais il y avait une hiérarchie qui était clairement instituée entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, quand on regarde le développement d'un courant, le courant véganiste, quand on regarde les résultats des élections législatives où le parti animaliste a présenté une centaine de candidats qui, en moyenne, là où ils se présentaient, ils ont fait, bon, alors c'est encore très marginal, mais 1% des voix, mais c'est le score des candidats du Parti chrétien-démocrate de Mme Boutin aux dernières législatives. Donc on voit progressivement qu'un certain nombre de fondamentaux très profonds sont aujourd'hui remis en cause.
Vous dites, même, je ne sais plus quelle page, quand vous parlez justement de ce qui reste auprès au sein de la jeune génération des catholiques, vous dites qu'ils continuent, bon, par exemple, à aller à la messe ou à avoir certaines pratiques, mais ils ne conçoivent plus du tout la religion de la même façon. Donc le rapport à l'animal, le rapport à la nourriture, le rapport au corps aussi.
Voilà,
vous l'avez observé, par exemple.
Oui, quand on regarde, alors par exemple, sur les résultats des sondages de l'IFOP, quand on regarde ce qu'étaient le positionnement de la société française sur l'IVG en 74-75, quand Madame Veil fait voter sa loi, et ce qu'il est aujourd'hui, on voit qu'en l'espace de 40 ans, les positions ont considérablement évolué. Ça, très clairement. On voit aussi qu'en 74, le bloc de population qui est le plus réfractaire, assez logiquement, c'est la France. Il s'agit des Français catholiques, qui sont majoritairement à l'époque opposés ou très réticents vis-à-vis de cette loi, à l'instar de la hiérarchie catholique. Quand on repose la même question 40 ans plus tard, le nombre de catholiques dans la population française, catholiques pratiquants, a beaucoup diminué. Et parmi ceux qui demeurent catholiques, leur opinion sur ce sujet précis de l'IVG a évolué au point que symboliquement, une majorité d'entre eux aujourd'hui sont favorables à cette loi.
Vous avez une proportion ou pas? Est-ce que vous avez réussi à calculer à peu près combien il y en avait?
De catholiques?
Non, de pourcentage, de, par exemple, de personnages favorables à l'IVG chez les catholiques interrogés
là,
que vous avez.
On est à 50%, 52% qui sont favorables. 50%. Donc c'est encore très partagé et donc il reste une trace manifeste de l'influence de cette matrice catholique, mais y compris dans le noyau dur de ces catholiques, ils ont eux-mêmes évolué à l'instar de l'ensemble de la société.
Alors j'aimerais qu'on parle aussi du brassage de population qu'il y avait aussi, vous l'expliquez, par le biais du service militaire, par les colonies de vacances, ça m'a un peu interloqué. Ça joue un rôle, ça a joué un rôle, ça aussi, la disparition du service militaire notamment.
Alors là, on le développe sur le phénomène d'archipélisation, avec ce qu'on peut appeler une forme de sécession des élites, et puis d'autonomisation des catégories populaires qui ne prennent plus leur référence culturelle vis-à-vis de cette France d'en haut. Et tout ça s'explique à la fois par la montée en puissance de l'individualisation ou de l'individualisme dans tous les compartiments de la société, mais également par la disparition de lieux de brassage, comme pouvait l'être, par exemple, le service militaire. Alors, ce n'était pas sa vocation première, mais il a servi à ça sociologiquement. On a tous en tête des exemples dans nos familles respectives de gens qui sont parvenus à passer à travers les mailles du filet, mais cas à cas, deux tiers d'une classe d'âge masculine, quel que soit son niveau de diplôme, et donc quel que soit son statut social, effectuaient son service militaire jusque dans les années 80. Donc, l'espace d'un an ou de 10 mois après, pour les plus chanceux, ou 9 mois, eh bien, on était confronté à des gens, des garçons de votre âge, mais qui venaient d'une autre région, d'un autre univers professionnel, d'autres sphères familiales. Et donc, l'espace d'une petite année, au moment où on se forge aussi ses convictions, son regard sur le monde, on prenait conscience qu'on appartenait à une société, une nation qui était quand même très diverse socialement et culturellement. Tout ça a disparu aujourd'hui.
Donc il y a une atomisation. Ce que je veux dire, c'est que ça a participé toujours à cette archipélisation.
Oui, et au fait que, notamment dans les sphères qu'on appelle dirigeantes ou dans l'élite, la population la plus éduquée, cette sphère s'est dilatée parce qu'il y a plus de monde aujourd'hui qui a des diplômés de l'enseignement supérieur. Mais ce faisant, on a perdu le contact avec tout le reste de la société. Ce qu'on voit aussi à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, où on a des dialogues surréalistes, par exemple, entre des représentants de La République En Marche, dont on a parlé tout à l'heure, qui incarnent d'une certaine manière cet élitisme, et puis des représentants des Gilets jaunes, et sur lesquels on a l'impression que...
C'est lunaire, enfin, il y a quelque chose...
Et qu'on ne parlait plus du même pays ou du même diagnostic. Donc à côté de ce service militaire, on avait... les colonies de vacances qui continuent d'exister, mais on rappelle dans le livre qu'en milieu des années 60, à l'apogée des colonies de vacances, c'est 4 millions d'enfants qui tous les ans vont en colo. Oui. Souvent avec un brassage social assez important, puisque c'est des colos qui sont organisés par les villes. Et donc on a les enfants de moyenne bourgeoisie avec les gamins des milieux populaires qui vont passer 15 jours, 3 semaines à la mer ou à la montagne ensemble et ils se frottent à d'autres univers.
Et là, c'est fini, il y a moins de succès.
Aujourd'hui, c'est 800 000 enfants, donc c'est quand même nettement moins. Et puis, ça s'est segmenté également très fortement avec notamment le développement de tout un marché privé avec des colonies, des séjours à thème, et donc plus coûteux, et donc des publics qui vont être segmentés selon le niveau de revenus des parents.
Conversation fascinante avec vous, Jérôme Fourquet, l'archipel français. On se retrouve juste après cette petite pause musicale. Mike Oldfield, Two Friends, tout de suite.
Radio Notre-Dame.
To
Voilà pour Two Friends, Michael Field, Jérôme Fourquet. Merci d'être toujours avec nous. Alors c'est vrai qu'on parlait, c'est un petit peu le brouillon, un petit peu archipelatoire cette émission, mais les îlots que forme finalement notre France d'aujourd'hui et à commencer par celle des prénoms, on en a parlé un peu brièvement tout à l'heure, donc la disparition des maris à une certaine époque, et puis surtout aujourd'hui la recrudescence des prénoms arabes, on est passé de 1 à 18% en 40 ans, c'est énorme. Hein.
Oui, alors sur cette question des prénoms, on a d'abord rappelé le cadre juridique qui existait, et on peut faire le parallèle avec le livre de Cuchet tout à l'heure sur l'influence du cadre juridique ou du cadre légal ou théorique. Avec les tendances de fond. Je m'explique. La liste des prénoms qui était possible d'utiliser avait été fixée par une loi de Napoléon qui remonte à 1803 et qui définissait que seuls étaient autorisés les prénoms qui figuraient dans le calendrier. Donc là encore, la matrice catholique, puisque l'essentiel des prénoms était des saints. Alors, en bon révolutionnaire, enfin héritier de révolutionnaire, Napoléon avait autorisé aussi l'utilisation d'un certain nombre de prénoms de personnalités historiques, mais ça c'était quand même très limité. Ce cadre juridique, il a tenu jusqu'à 1993. Alors, il n'était plus appliqué de manière aussi drastique au cours des dernières décennies, mais au moins jusqu'aux années 50, c'était le cas. Ce qui fait que de 1900 à 1950, la France a fonctionné. Alors, on a aussi des traces précédentes, mais le fichier sur lequel on s'est appuyé, qui est un fichier de l'INSEE, remonte qu'à 1900. La France est appuyée sur un portefeuille de 2000 prénoms qui étaient utilisés chaque année qu'un cas. On avait 2000 prénoms qui étaient utilisés. On est passé à 3000 dans les années 60. Et aujourd'hui, on est à 13 000 prénoms différents utilisés chaque année pour prénommer les enfants. 13 000 prénoms, à quoi s'ajoute une autre catégorie que l'INSEE isolée qui s'appelle les prénoms rares. Et là, c'est sur l'année dernière, 50 000 enfants qui bénéficient d'un prénom rare. Alors, le prénom rare pour l'INSEE, c'est un prénom qui va être donné au mieux deux fois dans l'année. Donc, un petit calcul, il y a 760 000 naissances en France chaque année. Mm-hmm. Ça fait 380 000 garçons, 380 000 filles. Et donc, vos parents vous donnent un prénom qui va n'être donné au mieux qu'une autre fois sur 380 000. Donc là, il faut leur donner une médaille parce qu'ils ont le génie de l'inventivité. Donc, on a une extrême diversification.
Mais la banque s'alimente chaque année.
Et la banque s'alimente chaque année. Donc ça, c'est clairement une traduction, une illustration du phénomène d'individualisation. Et puis, au sein de tout cela, on a aussi d'autres phénomènes qui se logent, comme la montée en puissance du choix de prénoms qu'on a qualifiés d'arabo-musulmans, c'est-à-dire qui se rattachent à l'ère culturelle musulmane, maghrébine, Afrique sahélienne ou turque.
Tout en sachant que ça n'aide pas dans la vie de tous les jours et dans le monde du travail.
Alors, on est passé effectivement de moins de 1% dans les années 60, parce que cette population n'était pas là, à 18% des naissances aujourd'hui. Donc, ce n'est pas 18% de la population, c'est 18% des naissances en 2016. Mais donc, si on fait des projections, c'est la France de demain. Donc, la France de demain sera composée à peu près à, pour un cinquième, de personnes qui portent des prénoms arabo-musulmans et qui sont, dans leur ultra écrasante majorité, issues de ce type de famille. Parce que ces prénoms-là ne sont pas utilisés par les familles qui ne sont pas issues de l'immigration. Alors, là où c'est intéressant, c'est d'abord que ça permet de retracer et de mesurer l'ampleur du phénomène migratoire qu'a connu la France au cours de 50 ans, puisqu'on est passé de 0 à 18 en 50 ans, donc c'est quand même massif. Deuxième élément, on doit s'interroger parce que d'autres études montrent que le fait de porter ce type de prénom vous expose dans la société française d'aujourd'hui à beaucoup de discrimination. Il y a eu des études très sérieuses, par exemple sur des envois de CV, qui montre que si vous portez un prénom qui
s'appelle
Mohamed ou Karim, par rapport à quelqu'un qui s'appelle Jérôme, il a beaucoup plus de chances de ne pas décrocher de rendez-vous. Idem si vous voulez trouver un logement.
Et vous dites que c'est volontaire.
Alors, il y a cette discrimination qui sont massives, réelles, et pour autant, ces familles donnent quasi systématiquement des prénoms arabo-musulmans, donc qui exposent potentiellement leurs enfants à cette discrimination. Donc, ça peut être ce que certains sociologues appellent l'illustration d'un retournement de stigmate en disant, eh bien, puisque la société française telle qu'elle est ne nous accepte pas, nous, on s'affirme et on s'affiche comme tel. Ça peut être aussi, ce qui est tout à fait légitime et humain, la volonté de rattacher ses enfants à une origine familiale, culturelle et nationale. À ceci près que d'autres immigrations précédentes, je pense notamment aux Polonais, aux Portugais ou aux Asiatiques plus récemment, ont rapidement abandonné les prénoms qui rattacheraient leurs enfants au pays dont ils étaient originaires. On prend le cas notamment des Polonais qui sont arrivés dans le Pas-de-Calais après la Première Guerre mondiale. Et on voit que là, les consignes données historiquement par Napoléon avaient été assouplies localement, puisqu'on voit apparaître pas mal de prénoms polonais dans le Pas-de-Calais après la Première Guerre mondiale, mais qu'en l'espace de 20 ans, ces prénoms disparaissent. Mmh. C'est-à-dire que l'assimilation s'est effectuée. On a appelé ça l'assimilation par le charbon, parce qu'il y avait beaucoup de travail dans les mines. Et d'autres travaux de démographie ont montré que cette question du choix des prénoms allait de pair avec les comportements matrimoniaux, c'est-à-dire que les groupes qui favorisent ou qui optent pour des mariages mixtes, les groupes issus de l'immigration, sont aussi les groupes qui, assez rapidement, et on le comprend, abandonnent le choix des prénoms qui les rattachent à l'origine.
Oui, c'est-à-dire que là, les mariages se font entre... les personnes qui donnent ces prénoms à ces enfants, par exemple arabes ou musulmans, tiennent à ce qu'ils restent dans une culture et ne se marient pas, par exemple, avec quelqu'un qui s'appelle Robert, ou qui s'appelle Marie.
Il faut être prudent et regarder les choses avec sérénité et objectivité. Tendance, on a des mariages mixtes qui sont quand même importants dans ces populations. Pour autant, ces mariages mixtes, dans pas mal des cas, donnent naissance à des enfants qui portent souvent des prénoms arabo-musulmans. Alors, si on rentre dans le détail, c'est quasiment systématiquement le cas. Alors, on va trouver des exceptions, mais quand le mariage mixte est composé par un mari ou un conjoint qui a ses origines et une conjointe qui, elle, n'est pas issue de l'immigration. Donc, dans ce cas-là, dans la plupart des cas, les prénoms des enfants seront des prénoms arabo-musulmans. En revanche, quand la jeune femme est issue de l'immigration et qu'elle se marie ou qu'elle se met en couple et qu'elle a des enfants avec quelqu'un qui n'est pas issu de l'immigration, en général, en tendance, il y a des exceptions, encore une fois, les prénoms qui seront choisis seront plutôt des prénoms de type européen.
Donc il y a des petites différences. Alors, en tout cas, c'est une preuve de plus donc, de cette archipélisation de la France, Jérôme Fourquet. Alors, j'aimerais quand même passer par le tatouage avant d'attaquer le cannabis. Voilà. Le tatouage.
Alors, le tatouage.
L'apparition du tatouage.
Alors là aussi.
Qu'est-ce que ça fait dans cette histoire?
Ben, ça traduit très clairement à la fois un nouveau rapport au corps et également un basculement générationnel et qu'on pourrait même dire un peu anthropologique. Alors, l'Église. Convoquer l'Église dans cette affaire aussi. L'Église s'est historiquement plutôt opposée à la pratique du tatouage, mais assez modérément en France, en tout cas en France hexagonale, parce que cette pratique était très peu courante. Je donne quelques chiffres. Aujourd'hui, 13% de la population française est tatouée.
13%.
13%. Alors on peut dire que ce n'est pas énorme.
Non.
Ça fait quand même 8 à 10 millions de personnes, vous voyez. Et parmi les personnes qui ont plus de 50 ans, on est à 1% de tatoués. Donc la France d'avant, entre guillemets, encore une fois, issue du baby-boom, qui a été éduquée dans
la matrice catholique,
voilà, ou le référentiel historique. La France qui vient, elle est tatouée à hauteur de 25%. Hein. Donc c'est pas qu'un phénomène de mode, et c'est pas uniquement dans les grandes villes, comme ici à Paris, vous allez dans n'importe quelle petite ville de province et vous allez voir un salon de tatouage ou un salon de piercing. Donc, c'est une pratique qui s'est complètement banalisée en l'espace d'une vingtaine d'années.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, ça veut dire différentes choses. D'une part, autre illustration comme les prénoms du processus d'individualisation. J'ai mon tatouage à moi qui me distingue de tous les autres. Il y a aussi un effet mimétique qui peut paraître paradoxal, c'est je me distingue tout en suivant une espèce de mode. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui est celui de se recréer des groupes affinitaires parce que les groupes historiques se sont disloqués. Et donc là encore, on voit, c'est pas qu'anecdotique, que cette pratique du tatouage, encore une fois, alors on peut aussi y voir également l'influence d'une culture anglo-saxonne mondialisée.
Oui.
Comme on le voit dans le choix.
Les stars de ciné, un peu rebelles ou les rockstars des années 80.
Les sportifs, les chanteurs, les groupes de rock, etc., etc. Donc tout ça est passé par là, de la même façon que les prénoms anglo-saxons.
Kevin et compagnie.
Ont fait leur apparition en France. Alors Kevin, par exemple, c'est le prénom masculin qui a été le plus donné en France de 1989 à 1996. Cette année durant, c'est Kevin qui est superstar avec 160 000 Kevin. Et donc, ces prénoms, ben, voilà, ils font leur apparition. Ils montrent qu'on est une société qui est ouverte, mais qui s'est aussi très fortement diversifiée. Parce que quand on fait la carte de ces prénoms américains ou anglo-saxons, on a fait ce qu'on a appelé la carte des Kevin et des Dylan. Un petit clin d'œil, mais qui...
C'est l'imprégnation aussi américaine. Ça, c'est
l'imprégnation américaine, mais c'est aussi la carte de la France populaire. Et accessoirement, de la carte qui vote pour le Front National. Et ce qui nous fait dire qu'on est sur une France populaire qui s'autonomise des modèles. C'est-à-dire que la France d'en haut considère avec dédain et mépris ses prénoms, qui sont massivement choisis par les milieux populaires, de la même façon que le discours ambiant stigmatise le vote pour le Front National. On en a illustration entre le premier et le deuxième tour. Et aux critiques habituelles vis-à-vis du vote Front National s'est ajoutée la contre-performance de Marine Le Pen, qui a complètement raté son débat. Et pour autant, toute la France du Nord-Est, ville exceptée, a voté majoritairement pour la candidate paria. Et donc là aussi, on est sur un retournement de stigmate de toute une partie des catégories populaires qui se disent « Les modèles que vous nous proposez, qu'ils soient culturels ou politiques, ne nous conviennent pas. Et nous, on vous adresse un énorme bras d'honneur, soit en votant pour le Front National, et c'est peut-être moins conscience, soit aussi en choisissant des prénoms qui vous font horreur. »
Alors, on va peut-être poursuivre avec cette histoire de grimper du cannabis et de baisse de consommation de vin et qui a un impact colossal, hein, Jérôme Fourquet, sur beaucoup de choses. La consommation, oui, mais pas seulement.
Alors, sur l'autre transformation, hein, pour montrer comment la France, en gros, des années 70, était quand même encore très clairement reliée à une France qui était celle des années 30, 40, 50, 60, et que, en l'espace de 30 ou 40 ans, on a basculé là aussi, à l'instar du tatouage, par exemple, dans complètement autre chose. Typiquement, sur des consommations comme la consommation de vin, qui s'est effondrée en France, hein, qui était quelque chose de consommé très fréquemment et fortement, notamment dans les milieux populaires. Et aujourd'hui, on regardait les statistiques, la consommation de vin s'est effondrée. Alors ça a eu des conséquences, c'est que des régions entières comme le Languedoc-Roussillon où on produisait en masse du vin bon marché pour alimenter toute la France, se sont retrouvées déstabilisées économiquement et socialement, avec toute une série de conséquences derrière. Et j'allais dire parallèlement, c'est pas parallèlement, mais dans le même temps, on a vu s'installer une pratique qui était inconnue sous nos latitudes, qui est celle de la consommation de cannabis, qui aujourd'hui s'est considérablement banalisée, qui ne touche plus certains milieux, mais qui est un phénomène de masse, à tel point que le législateur a renoncé à poursuivre pénalement les simples consommateurs. C'est devenu une contravention. Cette consommation de masse qui est illégale a fait émerger un marché parallèle qui s'est considérablement structuré. Et certains sociologues qui se sont penchés sur la question estiment à 200 000 le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui du commerce et du trafic du cannabis.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous avez une analyse, une interprétation? Rapport avec l'archipélisation, justement.
Eh bien, nous, on dit que, un petit jeu de mots, que c'est un principe actif dans la fragmentation d'un certain nombre de territoires urbains, notamment dans les banlieues, des territoires qui sont déjà un peu à l'écart territorialement, en difficulté sociale, avec des problèmes de mixité ethnoculturelle importants. Et vous ajoutez à ça une emprise de l'économie souterraine qui accélère le processus de fragmentation et de dérive de ces quartiers. Aujourd'hui, c'est dans certains quartiers, la monoactivité ou l'activité principale, c'est le trafic de cannabis. Quand j'ai dit 200 000 tout à l'heure, on fait une comparaison dans le livre. L'interprofession du cannabis, aujourd'hui, elle emploie plus de monde que la SNCF. Hein, donc c'est ça. Ou plus que,
là, c'est tout de suite plus marquant.
plus qu'Intermarché.
C'est plus une idée concrète de la chose.
Je fais un parallèle historique avec certaines régions de l'ouest de la France où, au XVIe et XVIIe siècle, se pratiquait, notamment en frontière de la Bretagne, toute l'activité de faussonnage, c'est-à-dire le trafic du sel, puisqu'en Bretagne, on ne payait pas la gabelle, la taxe sur le sel, et que dans l'ouest intérieur, on l'a payé. Et donc, il y a des régions entières, dans les campagnes pauvres, qui vivaient de ce trafic. Et donc, si vous lisez les comptes rendus des fermiers généraux qui avaient le monopole du sel et qui luttaient avec leur gabelou contre le trafic, vous retrouvez mot pour mot les mêmes récits que vous font aujourd'hui les policiers quand ils rentrent dans les quartiers sensibles, en disant on est des forces d'occupation, il y a une part tout à fait importante de la population qui vide ce trafic, c'est comme si on vidait l'océan avec une petite cuillère, etc., etc. Et toute une partie de la population est solidaire des trafiquants parce que tout le monde en vit. Et donc quelque part, se pencher sur le faux-sonnage, ça nous aide à comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers perdus de la République.
Et donc ça fragmente.
Eh bien ça fragmente encore davantage parce que ces quartiers étaient déjà dans des processus de fragmentation.
Alors j'aimerais bien terminer cette émission avec l'exil fiscal de l'autre côté, évidemment. Ouais. Là on parlait du cannabis, pouf, l'exil fiscal qui est, dites-vous, le stade ultime de la sécession des élites. Donc là, on revient donc à nos élites, on fait un petit retour.
Alors, il y a un autre phénomène qui est... Il y a toujours eu une France d'en haut toujours une France d'en bas, ça a toujours existé, mais il y a un phénomène...
Il y a toujours eu une France d'en haut, une France d'en bas.
Tout à fait. Mais il y a un phénomène qui s'est considérablement développé et qui n'existait pas, qui est lié à la mondialisation, c'est le degré d'ouverture sur l'international, avec des élites qui, aujourd'hui, sur les maîtrises des langues étrangères, sur les voyages, mais aussi, stade ultime, sur l'expatriation, sont aujourd'hui, si l'on peut dire, worldwide, alors que toute une partie de la population, du reste de la population, reste sur un référentiel qui est purement national ou très local. Mmh. Et donc,
ça commence dès le plus jeune âge.
Avec le choix d'écoles bilingues, etc. Et puis, pour un certain nombre de ces élites fortunées, eh bien, le fait qu'elles aient fait sécession ou qu'elles soient autonomisées du reste de la société en disant. Contrairement à l'adage historique, noblesse n'oblige plus, c'est-à-dire que j'ai plus forcément charge d'âme et je peux faire ce que je veux. Eh bien, le stade ultime de cette sécession peut être diagnostiqué dans l'exil fiscal de toute une partie des familles les plus fortunées qui, on rappelle par exemple, à la dernière élection présidentielle, on a 60 000 électeurs français qui ont participé à l'élection présidentielle qui sont résidents en Suisse. 60 000. Hein, il y en a des milliers et des milliers en Belgique. Et quand les représentants de la droite, lors de la primaire de la droite, ou quand Emmanuel Macron a essayé de chercher à lever des fonds pour financer, ils ont cherché des fonds pour financer leur campagne respective, la tournée des popotes passe obligatoirement par Bruxelles, Londres et Genève, parce que l'argent... aujourd'hui est en grande partie là.
Et on termine par le fric. Voilà. Merci en tout cas pour cette belle analyse transversale. L'archipel français, Jérôme Fourquet, naissance d'une nation multiple et divisée. Peut-être, donc édité bien sûr, les excellentes éditions du Seuil. Alors, j'aurais bien aimé vous demander comment vous élaboreriez la France de demain, comment vous l'appréhendez. Mais en 20 secondes, ça va être compliqué, ou peut-être en 5 secondes.
Mais sur le fait qu'il va falloir essayer de retrouver un ciment qui permette d'essayer de recoller un certain nombre de morceaux.
Retrouver un ciment, pas une mince affaire. Merci infiniment,
Jérôme Fourquet. Merci à vous.